9 décembre 1988 à Rimont, par le père Marie-Dominique Philippe, cours de philosophie chrétienne, politique et religion chrétienne.
C'est toujours un peu des réflexions sur l'éthique chrétienne. Ça, c'est la technique chrétienne. C'est fameux. C'est pas à cause de lui, puisque c'est à cause de la machine. Alors, c'est toujours dans ce cours qu'on avait commencé l'année dernière, qu'on avait presque terminé du reste. Il y avait quelques petits points sur lesquels on voulait revenir. Oui, donc toujours dans cette perspective, comprenez bien, que je crois importante à saisir. L'éthique à trois niveaux, au plan philosophique. L'éthique humaine, qui repose sur l'analyse philosophique, pratique de l'amour d'amitié, l'éthique religieuse qui repose sur l'adoration, qui implique les traditions religieuses ou la métaphysique. Puisque par la métaphysique, je découvre l'existence de l'être premier. La théologie naturelle, si vous aimez mieux. Métaphysique et théologie naturelle. Puis l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, on avait commencé, si vous vous souvenez bien, sur le point de vue de la mort. Là, on voit tout de suite qu'il y a une attitude nouvelle, chrétienne de la mort, que le philosophe peut constater. Au point de vue philosophique, les stoïciens ont énormément réfléchi sur l'attitude de Socrate. Et on peut se demander si même l'attitude de Socrate en face de la mort n'a pas été la source du stoïcisme. Parce qu'il est évident que tous dépendent de Socrate, toute l'éthique grecque dépend de Socrate. L'éthique platonicienne, l'éthique aristotélicienne, éthique stoïcienne, pas épicurienne. Épicurienne, c'est dans 7 contrats vis-à-vis des stoïciens, c'est suffisant. Quand on est devant un stoïcien, on comprend qu'on devient un épicurien. Ça arrive même dans la vie religieuse, il y a toujours des stoïciens dans la vie religieuse. Alors, en face, on devient épicurien. Par 7 contrats. Et les stoïciens chrétiens sont des stoïciens un peu calmés. N'est-ce pas? Le vrai stoïcisme est beaucoup plus dur. C'est cette fameuse phrase. Est-ce que, en face de la mort de ton ami, est-ce que tu dois pleurer? Non. Puisque tu n'es pas la cause de la mort de ton ami. Si tu n'es pas la cause de la mort de ton ami, tu dois avoir l'indifférence. Tout ce dont on n'est pas cause, on doit être complètement indifférent. Et ça, c'est quelque chose, point de vue attitude. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter de la mort de ton ami. Tu n'en peux rien. C'était son œuvre. La mort, il y aura. Zeus a choisi comme ça. Très bien. Tu t'inquiètes de ce dont tu es responsable. Oui, il y a de la grandeur. Il y a beaucoup de grandeur. Il ne faut pas dire que c'est petit. C'est très grand, le stoïcisme. Mais, vous savez bien que c'est le stoïcisme qui a influencé le plus les pères de l'Église. Donc ils ont trouvé dans le stoïcisme quelque chose qui était assez proche du christianisme. Il faut dire aussi que c'était la seule philosophie vraiment qui régnait à Rome à ce moment-là, Épictète. Alors, je me pose maintenant la question, dans cette perspective de l'éthique chrétienne, on avait posé la question la dernière fois, est-ce qu'il y a une personnalité chrétienne? Vous voyez, étant donné que l'éthique fait partie essentielle de la personne. Pas de métaphysique chrétienne. Mais y a-t-il une personne chrétienne? Quand j'ai dit je suis chrétien, est-ce que ça touche ma personne? Essentiellement. Pas si commode que ça. Je faisais allusion à cette conférence de M. Bourgeois, conférence qui nous avait tous beaucoup frappés, du moins ceux qui l'ont suivi, en disant que Hegel devait se comprendre par cette affirmation « Je suis luthérien ». Et que par cette affirmation « Je suis luthérien », on pouvait comprendre tout Hegel. C'était très beau. Alors, est-ce que je peux dire la même chose? Je suis chrétien. Est-ce que je suis chrétien implique une personne, quelque chose de particulier à la personne, d'essentiel? Bon, au point de vue substance, non. C'est sûr. Au point de vue métaphysique, il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Donc, au point de vue de la connaissance ontologique de moi, rien. Je suis chrétien n'importe rien. Tandis que je suis luthérien apporte quelque chose. Hein? La négation de la métaphysique. Tandis que je suis chrétien n'apporte pas la négation de la métaphysique. Si je suis vraiment chrétien, bon, si je suis chrétien modernisant ou progressiste, qui ne veulent pas de la métaphysique, alors à ce moment-là, ils sont côté luthérien. Ils sont peut-être fidéistes. Mais quand je dis je suis luthérien, que je suis chrétien, est-ce que ça apporte? Non, rien au point de vue métaphysique. Mais comme l'affirmation de la personne implique l'acte, et que la finalité du chrétien n'est pas celle du philosophe, c'est dans ça qu'il y a une éthique chrétienne. Si la finalité du chrétien est autre, et que la finalité est essentielle à la vie, à la personne, non pas ontologiquement, mais au point de vue de la finalité. Le chrétien, c'est celui qui mise entièrement sur l'au-delà. Pour moi, il n'est pas chrétien. Il mise sur le Sauveur. Et le Sauveur ouvre les portes du paradis. Et pour le chrétien, le paradis, c'est une réalité. Une réalité de l'au-delà. Ce n'est pas une réalité d'ici-bas. Le chrétien ne retourne pas au paradis terrestre. Mais le chrétien sait qu'il y a pour lui un au-delà qui relativise énormément tout ce qu'il vit sur la terre. Oui, sans cela, il y a une petite parenté avec le stoïcisme. C'est vrai, tout est relatif. Je relativise énormément l'au-delà. Oui, si une souffrance, une forte souffrance, ici sur la terre, je sais que je peux l'offrir. Que l'amour que j'ai pour le Christ me permet d'être victorieux de cette souffrance. Donc ça donne une attitude vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de la mort, toute différente, c'est relativisé. Ça, c'est les moyens, donc ça ne touche pas la personne. Mais la personne, regardant une fin surnaturelle, il y a un écho, un retentissement sur la structure même de la personne. Je crois que ça, je suis bien obligé de le dire. Ma fin, c'est l'amour du Christ et l'amour du prochain. Si ma finalité, c'est l'amour du Christ et l'amour du prochain, cette finalité est déjà vécue sur la terre. Et donc, elle donne à la finalité quelque chose de nouveau. Donnant à la finalité quelque chose de nouveau, je crois qu'on peut dire que je suis chrétien, mais à la personne humaine, un mode nouveau. Une force d'amour conquérante. Je suis victorieux du mal, de la souffrance, de la mort. Ce n'est pas une attitude stoïcienne proprement dite, parce que c'est l'amour qui domine. C'est vrai que c'est l'accomplissement de la volonté du Père qui commande tout. Chez les stoïciens, c'est l'accomplissement de la volonté de Zeus. Oui, elle a quelque chose de commun. On comprend très bien comment il y a un point de contact avec le christianisme. Il y a diverses manières d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a une manière chrétienne, une manière stoïcienne. La manière stoïcienne, c'est de compter sur soi, ses propres forces. C'est pour ça qu'on fait des haltères tous les jours pour avoir un peu plus de force et arriver petit à petit à vaincre tout. Les haltères chrétiennes, c'est différent. Parce qu'on compte sur le Christ. C'est Jésus qui nous donne sa force. C'est son amour qui nous donne sa force. Et en ce sens-là, c'est plus stoïcien. C'est une force qui dépasse toute autre force. Et c'est une force chrétienne qui vient du Christ. On s'appuie sur le Christ. Vous voyez, il y a là, je crois, quelque chose qui est délicat, parce que c'est très peu développé. C'est développé psychologiquement. Marot avait écrit dans le temps, un spirituel de Dijon, qui était professeur au grand séminaire de Dijon, avait développé des choses intéressantes dans ce domaine de la personne chrétienne, mais pas du tout du côté métaphysique, mais plutôt descriptif. Quelqu'un comme Bergson a aussi parlé de la mystique chrétienne qui touchait profondément la personne, mais c'est vu un peu de l'extérieur. Remarquez que c'est philosophique, en montrant que le contemplatif, le mystique, s'il était contemplatif, était en même temps celui qui pouvait s'engager le plus. Et c'est ça qui serait, je crois, très important à montrer. Montrer que la caricature de Garaudy est fausse entre la synthèse du marxisme et du christianisme. Puisque Garaudy avait sur son bureau deux photographies. Vous savez, il avait d'une part Marx et d'autre part le père Teilhard. Il faisait la synthèse. Vous voyez, il disait, le christianisme me montre le dépassement de toutes les difficultés par l'au-delà. Et le marxisme me montre la lutte contre ce qui est ici-bas. Ma patrie n'est pas seulement dans le ciel, elle est aussi sur la terre. Et donc il faut se battre sur la terre, il faut se battre pour le ciel. Il faut la synthèse des deux. Le christianisme empêche la synthèse des deux. Celui qui n'est pas avec moi contre moi. Celui qui met ça sur Mammon doit nécessairement abandonner le Christ. Donc on ne peut pas faire la synthèse des deux. C'est impossible. Donc, il faut comprendre, au contraire, que celui qui mise sa vie sur le Christ a une force plus grande pour demeurer dans le monde et combattre. Je ne vous retire pas du monde, mais vous n'êtes plus du monde. Je vous laisse dans le monde, c'est-à-dire avec les luttes que tout homme a. Le chrétien, le Christ nous donne la grâce, mais ne nous enlève pas les luttes. Il nous donne la grâce, mais il ne nous enlève pas la souffrance. Il nous permet au contraire de lutter plus. Je ne dis pas de souffrir plus, mais de lutter plus. Et très souvent, le chrétien souffre plus que les autres. Parce qu'il accepte mieux la souffrance. Alors comme il accepte mieux la souffrance, il souffre plus. Parce qu'il est dans une attitude plus d'accueil. Une attitude stoïcienne serait une attitude tout de suite négative à l'égard de la souffrance. faut la rejeter le plus possible. Dans le christianisme, on ne dit pas qu'il faut rejeter la souffrance le plus possible. On dit qu'il faut aimer le plus possible. Et on accepte la souffrance dans la mesure où elle nous permet d'aimer plus. Et en même temps, on sait qu'il ne s'agit pas d'être héroïque et compter trop sur ses forces. Et donc on acceptera certains soulagements de la souffrance. On vous conseillera d'accepter ce soulagement. On le prendra. Si on croit que c'est bien la volonté de Dieu. Vous voyez, tandis qu'un stoïcien refuserait. Il ferait toujours le plus difficile. Ce n'est pas une attitude absolument chrétienne de dire je prends et je choisis toujours le plus difficile. L'attitude chrétienne, c'est d'accepter ce qui nous permet d'aimer le plus et d'aller plus loin dans l'amour. L'attitude stoïcienne, c'est toujours le plus difficile. L'attitude épicurienne, c'est toujours le plus facile. Là où il y a le plus détente, le plus délectation, le plus joie. Là, c'est là où je suis le mieux accueilli. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Ça ne veut rien dire du tout comme critère. Je ne vais pas là où je suis le mieux accueilli. C'est bien évident. Je suis très bien accueilli dans cette communauté, mais ce n'est pas un critère divin, ça. Être bien accueilli, vous voyez, ça touche l'épicurisme, ça. L'épicurien, c'est celui qui est très bien accueilli, le carpe diem, quoi. Je suis très bien accueilli là, je ne sais pas où je serai, comment je serai accueilli dans une autre communauté, donc je reste là. C'est ça le critère chrétien. Est-ce la volonté du Père? Oui, stoïcisme et épicurisme regardent les propriétés et pas l'essence. Ne regardent pas l'amour. D'un côté, c'est le plus difficile, c'est une propriété de la lutte. Évidemment, le combat le plus intense, c'est le plus difficile. Normalement. Donc, vous voyez, c'est très délicat cette question du « je suis chrétien ». Ce serait intéressant, comme petit travail, pour quelqu'un. C'est en même temps un très beau livre à faire. Je suis chrétien. Est-ce que je suis chrétien commande toute ma personne? Je crois que je suis chrétien commande toute ma personne. Parce que ça commande la finalité. Mais, en comprenant bien, que je suis chrétien ne me donne pas une personne autre que la personne humaine. C'est la personne humaine qui est approfondie du côté de la finalité, qui n'est pas approfondie du côté de la connaissance, du côté de la finalité. Du côté de la finalité, ça me permet d'aller plus loin. Ça me permet d'entrer plus profondément dans ce que représente le bonheur humain. Vous voyez, voilà une piste de recherche. Je ne donne pas plus, mais il faut y réfléchir. Alors, dans cette perspective, toujours, je suis chrétien. Je peux me poser la question, y a-t-il une liberté nouvelle dans l'éthique chrétienne? La liberté, c'est très important. S'il y a une nouvelle finalité, il y aura donc nécessairement une nouvelle liberté. Puisque on est libre en fonction des moyens vis-à-vis de la fin. S'il y a une fin plus élevée, les moyens sont en vue de cette fin, en coopération vis-à-vis de cette fin. Et par le fait même, les moyens humains ordinaires de l'éthique humaine, de l'éthique religieuse, sont relativisés dans l'éthique chrétienne. Parce que la fin est plus élevée. Donc ce qui pourrait paraître comme nécessaire dans une éthique religieuse peut très bien nous paraître comme n'étant plus nécessaire dans une éthique chrétienne. Alors c'est là où il serait très intéressant à voir. même par rapport à la vie religieuse. Dans une éthique religieuse, l'aspect vie monastique est sûrement le moyen le plus élevé pour acquérir le moyen le plus noble, pour acquérir la fin religieuse. C'est-à-dire l'adoration et la contemplation. Ça, je crois que on voit ça dans le bouddhisme, si vous voulez. Ce que représente la vie religieuse des bonzes par rapport à ce que représente leur religion. Tout à fait essentiel. Vous savez, quantité de jeunes n'hésitent pas de passer 2 ans dans un monastère ou 3 ans. Acquérir des mœurs monastiques. Dans la vie chrétienne, la vie religieuse et la vie monastique gardent toute leur dignité, toute leur grandeur, puisque la vie chrétienne implique l'adoration et la contemplation. Mais la vie chrétienne est quelque chose de plus que l'adoration et la contemplation. C'est l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. Sauf qu'il me semble que dans une perspective d'éthique chrétienne, la vie monastique apparaît comme le moyen le plus normal à la sainteté. Et tout de suite, on ajoute que ce n'est pas le seul. Oui, c'est relativisé de cette manière-là. Non, pas du tout pour considérer que la vie religieuse n'a plus de sens, pas du tout. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Et la grâce, loin de supprimer la nature, et surtout la nature de l'âme religieuse, fait qu'on a encore beaucoup plus le sens de l'attitude religieuse. Que si on n'était pas chrétien. Mais le christianisme a quelque chose de plus que l'idéal chrétien, que l'idéal religieux. Le christianisme implique les vertus théologales. Et ce sont les vertus théologales qui sont la chose essentielle. Et donc, c'est l'épanouissement des vertus théologales qui apparaît comme primordial. Ben oui, c'est évident, parce que j'ai le droit de parler à un chrétien en tant que philosophe. Personne parle de la contemplation mystique en tant que philosophe. Mais il entend le chrétien qui lui parle, il fait son confidence. Il n'a jamais fait de confidence à un philosophe non chrétien. En disant, grâce aux vertus théologales, j'ai ce privilège énorme que vous n'avez pas, mon cher ami. J'ai quelque chose de merveilleux, je peux adhérer directement au mystère de Dieu. Il dira, je ne comprends pas, ça n'a pas d'importance. C'est la réalité, ça. Vous ne parlez pas qu'aux chrétiens de votre vie théologale. Du moins, j'espère que vous ne parlerez pas qu'aux chrétiens de votre vie théologale. Et qu'un beau jour, vous serez invité avec des gens qui se disent athées, qui se disent donc croyants, et que vous leur exposerez votre vie théologale. Vous leur exposerez ce que c'est que la raison, ce que c'est que la contemplation. Et ils seront babas. Devant ce que vous direz. Parce que si vous mettez toute la conviction de quelqu'un qui le vit, ils disent, tiens, alors vous êtes témoin à ce moment-là. Vous voyez ? Le philosophe, le vrai philosophe doit s'instruire de tout. Moi, ça m'intéresse de parler à un bouddhiste. Ça m'intéresse. C'est pas du tout que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse parce qu'il me représente quelque chose de tout à fait particulier. Des vrais, hein, pas des faux. Et ceux qui font ça par mode, la mode. Et comme la peinture abstraite. Alors quand c'est une mode, ça n'a plus aucun intérêt au plan philosophique. Et ce que j'ai vu à Taïwan, ça m'intéressait beaucoup. Si c'était de vrai. Ça m'intéressait beaucoup de voir ces étudiantes faire 2 ans de vie monastique. D'être complètement rasées. Complètement. La chevelure de la lionne dégringolée. D'être complètement rasées avec les 5 pointes. Visible. Ça ne les gênait pas du tout. C'est très curieux. Et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de savoir comment elles vivent. Mais ça m'intéresse, pourtant je ne suis pas bouddhiste. Le philosophe, un vrai philosophe, sait bien qu'il vit dans une culture chrétienne, s'il vit en Europe. Même si elle est au déclin, il y a des choses qu'on voit beaucoup mieux au déclin. Il y a des couchers de soleil qui sont très extraordinaires. Oui.
C'est pas justement le critère le plus déterminant. Non pas la vie monastique, parce qu'elle n'est pas universelle, mais une forme de vie sociale qui, dans le christianisme, n'est pas le critère de la sainteté, alors que dans toutes les autres religions,
oui, parce que c'est religieux. Et que le religieux vous laisse dans la société. Ou au contraire, vous fait sortir. Parce que la vie monastique vous fait sortir de la société. Vous n'êtes plus du monde et je vous laisse dans le monde. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, je crois. Et là, il y a quelque chose qui est important en éthique chrétienne. De comprendre que les vertus théologales sont au-delà de toute forme sociale. Tandis qu'au plan religieux, la vie monastique vous sépare du monde. Point de vue éthique religieuse. L'éthique religieuse, vous voyez dans quel sens je veux dire, est plus farouche pour la séparation que les vertus théologales. Mais les vertus théologales voudront aller plus loin et iront plus loin dans l'ordre de la séparation intérieure. La cellule intérieure, ça c'est tout à fait théologal. La cellule intérieure de Sainte Catherine, c'est tout à fait les vertus théologales. Je crois que ça ne s'expliquerait pas au niveau purement religieux. Donc ça donne une intensité plus grande de séparation. Vous êtes des étrangers. Ce que dit saint Paul, le chrétien est un étranger. On n'est plus du monde. Et Jésus ne nous retire pas du monde. Donc on va plus loin dans le don à l'égard de Dieu. Le don est beaucoup plus fort. La consécration est plus forte. Et en même temps, il y a une force plus grande pour assumer toute la nature humaine. Donc même la vie communautaire, même la vie politique. Oui, c'est là où je crois la différence entre la vertu de religion et les vertus théologales. Oui, il y a là quelque chose qui me semble très net au point de vue chrétien. Au point de vue chrétien, la vie apostolique qui implique la contemplation et qui implique le contact avec les gens du monde, cette vie apostolique ne peut être vécue qu'au niveau théologal. Et non pas au niveau religieux. Il faut creuser ça, c'est très important pour Saint Jean. C'est très important pour la vérité tout court. Mais je crois que ce n'est pas possible au point de vue strictement religieux. Alors il y a toujours en nous une espèce ni de retour religieux, parce que c'est beaucoup plus beau une vie religieuse qu'une vie théologale. L'attitude religieuse exige beaucoup plus la beauté que les vertus théologales. Les vertus théologales nous conduisent à la croix, parce que c'est les vertus théologales chrétiennes. L'absolu, c'est la croix. Or, il est dit qu'il n'a plus de visage humain. Un objet devant lequel on se voile la face. C'est pas très beau. Tandis que les temples de l'Antiquité, c'est une beauté. Il y a des églises très belles, suivant les époques, il y en a de moins belles, suivant d'autres époques. Et le goût chrétien n'est pas toujours, n'allait pas trouver une petite carmélite dans sa monastère pour pouvoir savoir si telle image est une merveille de beauté. Ça gêne des gens. J'ai entendu plusieurs fois des réflexions. Comment se fait-il que cette contemplative n'arrive pas à faire des images plus belles? Je dis, ça n'a rien à voir. Tandis qu'au niveau religieux, ça a à voir quelque chose. Je crois. Oui. Parce que le religieux ennoblit l'homme. Et les vertus théologales font de nous des enfants de Dieu. Et ça n'oublie l'homme que secondairement, pas premièrement. Donc là, c'est quantité de choses secondaires. Je crois que ça, c'est un point de vue qui me semble très important à creuser. L'art religieux est plus art que l'art chrétien, qui est moins art, et il est commandé par quelque chose de plus beau. Curieux, ça. Alors, ça se voit énormément dans la liturgie. Une liturgie religieuse est toujours beaucoup plus belle qu'une liturgie théologale, commandée par le point de vue théologal, et commandée par le point de vue apostolique, ce qui plus est. Parce que quand c'est commandé par le point de vue apostolique, on n'a plus le temps de faire des répétitions et des répétitions. Pour chanter un grégorien parfaitement, il faut une répétition tous les jours. C'est bien évident. Pour que ce soit parfait. Ça, c'est religieux. Si c'est théologal, c'est commandé par les vertus théologales, ça demande une pauvreté bien plus grande. Parce que les vertus théologales n'ont pas comme but premier de faire que l'homme soit parfait. Les vertus théologales ont comme but premier de faire de nous des enfants de Dieu. Et les vertus théologales réclament de nous d'être témoins du Christ, des apôtres. Oui. Et comme c'est fait de nous des apôtres, on a moins de temps. Parce qu'on est pris par la vie apostolique. Et ça, c'est, je crois, très important de saisir ça. Parce que ça fait comprendre des quantités de choses dans l'Église. Et ça fait comprendre peut-être des quantités de choses pour nous. Vous voyez, quand il y a un religieux, quelqu'un qui vraiment a une grâce extraordinaire au point de vue religieux, et que ça lui reste, pour lui, c'est la vie monastique. Il y a de plus grand dans l'Église. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas la vie monastique qui est le plus grand dans l'Église. C'est la vie apostolique. Plus grand, c'est la vie du Christ. Marie a une vie apostolique. Il ne faut pas l'oublier. Marie n'est pas ermite. S'il y avait de plus grand d'être ermite, vous voyez, Jésus aurait demandé à Marie de partir au désert. Il a confié à Jean, ce n'était pas le désert. Jean était un apôtre. Il faut une vie monastique contemplative, doctrinale, apostolique. Mais bien. Ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. Dans une lumière de philosophie religieuse et de philosophie chrétienne. Et la philosophie a ce privilège d'expliciter des choses qu'on n'explicite pas en théologie. Et là, au point de vue philosophique, ça apparaît avec une netteté foudroyante. Dire, j'ai un tempérament qui me demande d'être beaucoup plus de vie monastique. Parce que moi, dès que il y a un tout petit peu d'agitation, ça ne va plus du tout. Je veux que la vie soit réglée de manière telle que je sache, au début de l'année, tout ce qui se passera pendant toute l'année. Ça peut exister, ça, et ça existe. Des gens qui sont affolés autrement. Je dirais, bon, ça, vie monastique. Il y a des personnes qui, si c'est la vie monastique, au bout d'un an, il y aura le ronron. Parce que ça continuera toujours la même chose, et il n'y aura rien pour les éveiller. Il y a des moines qui dorment. Ça existe, c'est évident. Comme il y a des apôtres qui tombent dans l'agitation. Des gens trop agités, ce n'est pas des apôtres, c'est des gens agités. C'est tout à fait différent, il faut brasser des affaires. Vous voyez. Donc il faut devenir PDG avant tout. Et plus il y en a, plus ça va bien. Vous voyez. On est euphorique à la fin de la journée parce qu'on a pu accumuler des quantités de choses dans la journée. Ça, ce n'est pas la vie religieuse, ce n'est pas la vie monastique, ce n'est pas la vie apostolique. La vie apostolique est au rythme des vertus théologales. C'est un rythme divin. Ce n'est pas le rythme de la vie monastique. Je n'identifie pas vertu théologale et vie monastique. La vie monastique est une vie religieuse. La vie théologale est une vie divine. Dieu n'est pas moine. Si Dieu était moine, il n'aurait jamais créé. Parce que, quelle agitation du côté des créatures. Oui.
Dans la vie monastique, il n'y a pas obligatoirement le côté hérémitique.
Non, il y a communautaire.
Oui, mais alors dans la vie communautaire, le fait de supporter cette flèche, c'est dans l'apostolat.
Que
Oui, bon. Sens
c'est un apostolat immanent. Vous voyez, mais ce n'est pas l'apostolat au sens précis. Vous voyez, c'est la charité fraternelle. La charité fraternelle n'est pas l'apostolat. Il y a la miséricorde. Alors que la vie apostolique vous aide à avoir une vie, une charité fraternelle plus parfaite, parce que la vie apostolique développe énormément la miséricorde. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous supportez toute espèce de caractère de vos frères. grâce à la miséricorde. Tandis que dans la vie monastique régulière, quelqu'un de trop agité vous dira, écoutez, non, vous n'avez vraiment pas le tempérament de la vie monastique. Ça se dit, ça. Je l'ai entendu. Je l'ai vu. Et vraiment pas le tempérament de la vie monastique. Parce que c'est vrai, si vous avez besoin, tous les 15 jours, de changer de chaise, c'est difficile dans la vie monastique. C'est difficile. Tandis que dans la vie apostolique, ça peut encore se faire. Si ces changements sont très finalisés par l'amour du Christ. La finalité prendra un poids énorme, une exigence énorme dans la vie apostolique. La vie apostolique demande d'être finalisée à fond. Autrement, c'est l'agitation. Et la vie monastique est avant tout quelque chose de beaucoup plus structuré. Oui. La vertu de religion structure l'homme. Les vertus théologales ne structurent pas directement l'homme. C'est la difficulté, c'est qu'on ne pense pas assez à ça. Et aujourd'hui, on doit y penser très fort. Oui, notre vie. Quand nous disons que notre vie est structurée par la contemplation, c'est très vrai. Et c'est en même temps de comprendre que cette structure est très fragile. Quand on dit votre vie est structurée par la vie monastique, c'est beaucoup plus facile. Je dis, c'est la vie monastique. J'ai été très séduit par la vie monastique quand j'étais jeune. J'étais très très séduit. Je suis encore, tu vois. J'aime beaucoup de regarder une vraie vie monastique, c'est beau. C'est très beau. Je dis exprès, c'est très beau. C'est pour ça que ça vous séduit. Et on doit tous être séduits par ça. Parce que c'est très beau. La vie monastique des Chartreux, c'est encore un autre type. C'est moins beau. C'est vrai, c'est moins beau que la vie monastique bénédictine. La vie monastique bénédictine, quand elle est bien vécue, c'est ce qu'il y a de plus beau. Comme beauté de vie monastique. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus grand. La vie monastique des Chartreux est différente. La vie monastique assumée par les vies apostoliques, c'est encore autre chose. Et la vie monastique, alors, est forcément allégée. Et on sent très bien les types différents de vie monastique. Dans les monastères africains, ce n'est pas la même vie monastique que dans les monastères français. D'autres choses. Il y a une part apostolique qui donne, et une part des vertus théologales qui leur donne une autre physionomie. Ça se sent tout de suite. Très, très curieux. Et c'est normal, ces choses-là. La vie, du reste, je crois que primitivement chez saint Benoît, il y avait tout cet aspect d'accueil, tout cet aspect apostolique qui était très fort. Le jour où, dans l'Église, il y a eu les ordres mendiants, vous voyez, à côté de la vie monastique, les ordres mendiants ont mis l'accent sur l'aspect apostolique, sur l'aspect doctrinal. Et je crois qu'à ce moment-là, ils ont joué un mauvais tour à la vie monastique, si j'ose dire. Oui, ils ont joué un mauvais tour. Ça dit à ça, bon, très bien. Ah, la doctrine, c'est vous, c'est vous. Comme on pourrait dire, les pères jésuites ont joué un mauvais tour à la vie dominicaine, ou à la vie franciscaine. Ou, au contraire, ils peuvent jouer un très bon tour pour montrer le caractère spécifique tout à fait particulier. Et la congrégation Saint-Jean arrive en dernier lieu, après tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a Marie. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors il faut essayer de comprendre. De fait, parce que si ça a été accepté par l'Église, tant que ce n'était pas accepté par l'Église, on pouvait dire, ben, c'est une invention humaine. Il y a eu une idée de certains étudiants de Fribourg en disant qu'ils étaient très bien là, qu'il valait mieux rester là, puisque c'est eux qui ont l'initiative. Le père Marie-Alain, c'est lui qui a eu la première initiative. Il est venu nous trouver en me disant, ben, je veux rester à votre école. Oui, mais quand même, vous pensez au sacerdoce, ça m'est égal. Ce qui est important, c'est d'entrer à fond. Ça s'est groupé comme ça. Donc, c'était un aspect contemplatif, apostolique. Et ensuite, on a compris qu'il fallait à tout prix une base monastique. C'était nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut une base monastique. On va dire qu'on est des moines au sens absolu. On l'est. Mais comme base. Et que la doctrine et la vie apostolique vont apporter quelque chose de particulier. Ça ne veut pas dire du tout que la vie monastique africaine ne doit pas, je dis africaine parce que c'est justement ce que je connais mieux. C'est vrai, quand je prêche à Kermoussa ou je prêche dans un monastère français de France, je sens la différence. C'est très curieux ça. Et l'apôtre a la grâce de sentir ça. Parce que l'apôtre ne va pas prêcher ce qu'il vit. Il prêche en fonction de ceux devant lesquels il est. Et on sent très bien à ce moment-là que l'aspect doctrinal doit être plus fort pour l'Afrique. Parce qu'ils ont apporté une jeune église. Et la vie monastique doit porter cette jeune église. Et l'aspect accueil est très important. Puisque justement, ils doivent porter cette jeune église. Donc l'aspect du témoignage, et par le fait même l'aspect proprement, je dis doctrinal, est plus important. Et à ce point de vue-là, on est beaucoup plus proche. On sent très bien une proximité beaucoup plus grande. Et je pourrais citer des tas de détails qui montreraient ça de façon très étonnante. Moi, j'ai ressenti très fort cette année-ci, encore plus que les autres années. Comme il y avait Popaïne qui existait, je pensais toujours aux deux. On sent tout de suite qu'il y a une alliance secrète. Alors que, oui, on sent bien cette alliance secrète avec les Reims. Mais cette alliance secrète avec les Reims n'a pas le même caractère. Les Reims nous a aidés. Parce qu'on est beaucoup plus proche. La vie monastique prend une modalité différente. C'est très souple la vie monastique, hein, contrairement à ce qu'on dit. C'est très très souple. Quand vous regardez l'histoire de la vie monastique dans l'Église, vous voyez la souplesse extraordinaire de la vie monastique. Parce que cette vie monastique est assumée par les vertus théologales. Elle est chrétienne. Donc du fait même qu'elle est chrétienne, elle est assumée. Alors, c'est plus ou moins assumé, ça dépend des moments, ça dépend des monastères, ça dépend. Mais c'est assumé. C'est une vie monastique chrétienne. Et la vie monastique chrétienne apporte immédiatement cette note d'exigence de contemplation, cette exigence de doctrine, cette exigence d'accueil. Ce n'est plus une forteresse. Kermoussa n'a rien d'une forteresse. Et c'est vrai. Jusque dans les bâtiments, qui doivent être pauvres. Mais l'élément de pauvreté dans la vie monastique apporte la possibilité beaucoup plus forte de l'aspect de la doctrine et de l'aspect de l'accueil. C'est très difficile d'accueillir quand on est très riche. Parce qu'on va scandaliser. On doit pouvoir accueillir les plus pauvres. Et qu'ils ne soient pas scandalisés. Donc la pauvreté est essentielle. Et ça, c'est chrétien. Oui. Quand je voyais ces monastères bouddhistes, je vous affirme, il n'y avait pas beaucoup de pauvreté. C'est au contraire une splendeur extraordinaire. Pour Bouddha, rien n'est trop grand. Alors tout était doré. Et ça nous gêne à nous, en tant que chrétiens. Parce qu'on sent qu'il faut cette note de pauvreté qui libère. La pauvreté libère. Et libère l'esprit. Et nous avons été jusqu'à avoir des Saint-Joseph pour libérer encore plus notre esprit. Nos Saint-Joseph nous libèrent. De tout souci temporel. pour aller plus loin dans la recherche intellectuelle. Et vous voyez, si on est libéré pour se tourner les pouces, évidemment, ça, c'est pas tout à fait vrai. Alors là, ça, c'est le Bouddha qui pousse. On est libéré pour avoir plus de temps aux études, pour se donner davantage aux autres. Un accueil plus fort, et une vie apostolique plus intense. Mais là, il y a quelque chose, je crois, de très important au point de vue éthique chrétienne. À bien comprendre, à bien saisir. Alors, à partir de là, vous voyez, vous comprenez comment l'éthique chrétienne implique une liberté plus grande, libération plus profonde. Le chrétien est plus libre que n'importe quel autre homme, s'il est vraiment chrétien. Et le moine est plus libre que n'importe quel autre chrétien. Liberté intérieure. Donc c'est là où on touche le sommet de la liberté. Le moine chrétien, l'apôtre, le contemplatif, l'homme de doctrine, il est libre. La liberté plus grande que l'homme religieux. L'attitude religieuse, déjà, vous donne une liberté, mais on a une liberté bien plus grande quand il s'agit du chrétien. Et ça frappe énormément le monde d'aujourd'hui. Le témoignage, vous voyez, de la pauvreté qui se traduit dans la liberté intérieure, c'est ce qui frappe le plus aujourd'hui, nos contemporains. Et ce qui doit être gardé avec le plus de jalousie possible. Parce que ça, c'est la marque de l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui ont cette liberté. Et tout dans notre vie monastique, dans notre vie doctrinale, dans notre vie apostolique, tout dans notre vie est fait pour que l'Esprit Saint s'empare davantage de nous. Et quand l'Esprit Saint s'empare de nous, il nous donne cette liberté des enfants de Dieu. Alors c'est la liberté des enfants de Dieu. Et la liberté des enfants de Dieu a un caractère tout à fait particulier, parce qu'il montre que tous les moyens sont limités et impuissants pour nous donner la sainteté. Seul l'Esprit Saint nous donne vraiment la sainteté. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. On comprend très bien comment la liberté des enfants de Dieu est beaucoup plus grande. Toute autre liberté. Vous voyez, au cœur de l'éthique chrétienne, on souligne cette liberté des enfants de Dieu. Vous allez me demander qu'est-ce qui caractérise cette liberté. C'est de voir que tous les moyens sont par nature inefficaces, insuffisants. Tous les moyens, par nature, peuvent être rejetés. Ils ne peuvent être acceptés que si on s'en sert divinement. La foi, l'espérance et la charité. Alors à ce moment-là peuvent venir des tremplins magnifiques en vue de la sainteté. Vous voyez, ça donne intérieurement, au point de vue de notre vie, ça donne une très grande liberté, donc une très grande joie. Respire. S'il n'y a pas de questions, la fois prochaine, je passerai tout de suite à la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Et y a-t-il une politique chrétienne ?